MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir la bénédiction de découvrir son couloir. Vous savez, cet appel, ce moment où vous savez que vous êtes en train de faire la chose que Dieu vous appelle à faire. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et aujourd'hui, j'aborde ce thème en perdant ma voix avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Freddy Koyomba. Décidément, ma voix me lâche. Ça va bien, pasteur Freddy ?
Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir encore une deuxième journée avec vous. C'est quelle grâce d'être là. Merci à vous. Bonjour Evelyne. Bonjour Nadine.
Bonjour.
D'être là en tout cas.
C'est un plaisir vraiment. Sois le bienvenu encore et on est très content de t'avoir avec nous. C'est un super thème qu'on aborde aujourd'hui et tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler du rôle du père dans la pensée de Dieu tout à l'heure.
Ça va être un moment particulier parce qu'on va parler à tout le monde. Au père, mais aussi à des gens qui ont des pères aussi. Mm-hmm. Et qu'est-ce que Dieu attend du père ? Comment Dieu voit le père ? Et qu'est-ce que Dieu attend qu'il réalise dans son couloir de père ? Ça va être top.
C'est un super thème. Moi, je suis très contente quand on parle de ce genre de sujet très précis quand même. Et c'est vraiment des clés qui vont être utiles. Et moi, j'encourage les mères à écouter aussi, hein, parce que le rôle du père aussi, la mère a un rôle à jouer aussi pour que l'homme prenne sa place et puis s'implique. Donc, tout le monde est concerné finalement. Hein. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. On va parler de la bénédiction de découvrir son couloir dans la pensée du jour.
Pour beaucoup d'entre nous, on va à l'école, on apprend des choses. Nos parents ont des rêves pour nous et vont peut-être même nous suggérer une carrière à prendre, un couloir à emprunter. Et des fois, on va étudier, on va peut-être avoir certaines aptitudes et rentrer dans une certaine sphère d'études, une certaine sphère de travail. Et au bout d'un moment comme ça, on arrive à un point où on se dit « qu'est-ce que je dois vraiment faire ?» Et je crois que la vie commence lorsqu'on découvre exactement le couloir dans lequel on doit emprunter. On était peut-être 20 ou 100 personnes dans notre promotion à avoir terminé ces études-là. Mais malgré le diplôme que nous avons, il y a quand même une spécificité. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Et il y a une bénédiction, un épanouissement lorsqu'on arrive à trouver exactement quel est ce couloir. Dans la Bible, on nous parle de Paul. Et Paul, pour moi, est un exemple de quelqu'un qui, malgré ses études, malgré tout son bagage, à un moment donné dans sa vie, Dieu lui a parlé et il a su exactement ce qu'il devait faire. Il savait où il devait aller. Il savait l'appel qui était attaché à sa vie. Et Paul est resté dans son couloir. Il ne s'est pas éparpillé à gauche ou à droite. Il est resté dans son couloir, il a été une bénédiction pour sa génération et une bénédiction pour nous encore jusqu'aujourd'hui. Galates 2, les versets 6 à 9, la Bible dit « Quant à ceux qui sont les plus considérés, ceux qu'ils étaient autrefois n'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié par les circoncis comme à Pierre, pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, donc c'est Paul qui parle, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. » Et vraiment, dans ce passage, on voit que Paul va dire, oui, à un moment donné, Dieu ne fait exception de personne. Et ça, c'est déjà un élément à savoir. Lorsque nous voulons rentrer dans notre couloir, lorsque nous comprenons cette bénédiction de notre couloir, nous comprenons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça nous empêche de jalouser les autres, de penser que les autres, ils ont eu le bon coupon, qui leur donnait des bonnes choses à faire et nous, on a les restes. Non, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et déjà, vous-même, avoir cette prédisposition de comprendre que Dieu a un plan pour vous et il ne fait pas de favoritisme et ce qu'il a pour vous est le meilleur pour vous, va vous aider à aller dans votre couloir. Et lorsque vous allez reconnaître ça, comme Paul, vous allez pouvoir dire, tiens, je sais où je dois aller. Moi, je vais vers les non-juifs et je suis une bénédiction. Donc, les gens qui ont un autre appel vont pouvoir même m'encourager parce que je ne suis pas une nuisance pour eux, je ne suis pas une menace pour eux parce que je fais ce que je dois à faire. Et vraiment, je vous encourage à cela parce que ça va vous permettre de vous donner à fond pour maximiser vos dons et vos talents. Ça va couper la frustration. Lorsqu'on réalise que, tiens, moi, voici ma voie, ça me permet de couper de la frustration et ça me permet de faire ce que je dois faire au meilleur de mes capacités. C'est comme un vélo qui veut aller sur une autoroute comme une voiture. Autant il pourrait faire le maximum qu'il peut. C'est pas dans son couloir, en fait. Et ce serait même bizarre, en fait, de faire ça. Et ce serait un gaspillage d'énergie. Alors, trouvez l'endroit où vous devez travailler. Trouvez l'endroit où vous devez vous épanouir. Trouvez le couloir qui est à vous. Regardez les autres pour vous inspirer, mais jamais pour vous comparer. Et vous allez voir que vous serez une bénédiction pour vous-même. Vous aurez moins de frustration et vous serez une bénédiction pour les autres. Paul a dit dans 2 Timothée 4, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. La couronne m'est réservée et ça va être de même pour vous aussi. Lorsque vous allez vous mettre à vivre une vie où vous n'êtes pas en train de faire ce que les autres font, vous faites ce que Dieu vous appelle à faire et vous allez voir qu'il y a un épanouissement qui est attaché lorsqu'on découvre notre couloir.
Amen. Merci Amen. Nadine. Très très belle pensée. Et j'enchaîne tout de suite avec notre verset du jour qui va vraiment dans la même direction. 1 Corinthiens 12 au verset 18 nous dit « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. » Et écoute, il y aurait tellement de choses à dire juste sur ce simple verset. Mais premièrement, de savoir que Dieu nous a tous appelés à quelque chose. Il n'y a personne qui a été mis de côté. Comme tu l'as dit dans ta pensée, on a tous un appel, une particularité. Mais on n'a pas le même rôle. Et imaginez si tout à coup, mes doigts, qui sont très bons pour prendre des choses, décidaient de vouloir être des yeux. ce serait compliqué ma vie. Je m'écraserais dans beaucoup de murs parce qu'en fait, ils n'ont pas été faits pour ça. Ils n'ont pas les talents pour, ils n'ont pas les aptitudes pour, mes doigts sont faits pour ça. Et ils ne peuvent pas un jour se lasser et dire j'en ai marre d'être des doigts et de ramasser des objets, je veux être un œil. Non, ça ne marche pas comme ça. Et des fois, on fait ça. On fait ça, on est là, on sait exactement. Si on est honnête avec nous-mêmes, parfois, on sait exactement ce à quoi on est appelé, mais on résiste. Non, je ne veux pas faire ça, ou ça fait 5 ans que je fais ça, je suis fatiguée de faire ça, et on envie quelqu'un qui fait quelque chose de complètement différent, et on veut changer de couloir, on fait du forcing, alors que Dieu nous dit, non, là, maintenant, c'est là que je te veux. Pour l'instant, dans cette saison, c'est là que je te veux. Reste tranquille.
J'aime tellement cette pensée parce que c'est une demande que j'ai souvent, des gens qui me demandent « Mais à quoi je suis appelé ?» Et le réflexe, c'est de regarder qu'est-ce que fait quelqu'un qui a beaucoup de succès. Et je vais vouloir le copier. Et j'ai beaucoup aimé l'idée
du vélo.
Parce que c'est vrai, beaucoup sont comme des vélos qui n'avancent pas en réalité. Et ce que je retiens, c'est que chacun est placé selon le Seigneur. En fait, pour trouver sa voie, il faut regarder à soi. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qu'est-ce que je sais faire, comment je sais le faire. Et on pourrait aussi, pour s'aider, demander autour de soi qu'est-ce qu'on repère chez moi, qu'est-ce qu'on sait de moi, qu'est-ce qu'on apprécie chez moi et qu'est-ce que je fais très bien sur lequel on me demande, refais-le encore et encore, parce qu'on constate que c'est quelque chose pour lequel je suis doué en fait, je sais le faire. Et les mains sont faites pour saisir, les yeux pour voir. Donc je pense qu'il faut que chacun puisse regarder à faire un peu le décompte de le bilan de ses talents, de ses capacités, pour pouvoir trouver un peu ce couloir. Mais c'est certain, on a un couloir, c'est ça qui est la bonne nouvelle, nous avons un couloir qui nous est destiné, et il n'y a pas besoin de se comparer à qui que ce soit, mais trouver qu'est-ce que Dieu a mis en moi, et avancer par sa grâce.
Et ce qui est génial avec un couloir, c'est qu'il est long, un couloir, et c'est pas obligé de s'arrêter, là, c'est pas un petit corridor de 1 mètre sur 2 mètres, un petit vestibule, c'est vraiment un couloir, c'est long. Et moi, je pense souvent à Peter van der Berg, qui était un des bras droits de Reinhard Bonnke, vraiment. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire dans le ministère de ses fans. Et en fait, lui, il était dans un groupe de musique, il tournait, il avait été dans un concessionnaire d'automobile, il a été vraiment dans la mécanique, dans l'automobile. Ensuite, il était dans un groupe de louanges et il avait énormément de succès. Quand le Seigneur, à un moment donné, l'a arrêté et lui a dit clairement... Tu dois rejoindre le ministère de ses fans. C'était le début, c'était pas le ses fans qu'on connaît, c'était le Reinhard Bonnke du début qui était en Afrique encore avec faire des petites campagnes. Et Peter van der Berg est arrivé dans le ministère de ses fans avec tous ses talents qui semblaient même pas forcément pertinents pour ses fans, mais ça a été une bénédiction. Et aujourd'hui encore, il sert aux côtés de Daniel Colanda maintenant, mais il est encore là, fidèle. Et en fait, tout ce passage qu'il avait fait, que ce soit dans l'automobile, a été utile pour réparer les camions qui allaient sur les routes d'Afrique, de campagne en campagne, au niveau de la louange, au niveau de la prédication. Il a géré les équipes, il a structuré ses fans. Ça a été une bénédiction extraordinaire. Mais il était dans son couloir. Et en fait, ça a enchaîné. Aujourd'hui, il fait partie des hauts dirigeants du ministère de ses fans. Mais c'était ce couloir-là qui paraissait peut-être des choses différentes, mais à chaque fois, c'est Dieu qui le guidait. Et il a été obéissant et il a suivi ce couloir que Dieu avait pour lui jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Et moi, ça m'inspire beaucoup quand je pense à lui.
Ouais, c'est extraordinaire parce que tu vois, je pensais quand je faisais cette pensée, je me dis que des fois, on a des faux raisonnements qui nous empêchent justement de rentrer dans notre couloir et on en a parlé. Je pense qu'un des faux raisonnements, il y en a deux peut-être que je peux mentionner. Mais le premier, c'est vraiment le désir, tu en as parlé, Freddy, de faire ce qui est en vogue, de faire ce qui est à la mode, de faire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oh là. Donc tout d'un coup, je vois, il y a une époque, tout le monde était entrepreneur. Et combien ont lâché leur boulot pour être des entrepreneurs et pour se rendre compte que peut-être c'était pas ça leur couloir. Ça avait l'air simple, ça avait l'air facile comme ça là, au début, mais quand c'est pas ton couloir, tu vas trouver ça dur, tu vas trouver ça vraiment ardu. Et des fois même être influenceur, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire
mais
ça.
Oui.
Exactement.
C'est le nouveau couloir.
Mais c'est des fois, c'est devenu le nouveau couloir de tout le monde qui a un mot à dire, j'ai une pensée, mais peut-être j'en ai pas 100 000 pensées, j'en ai qu'une seule. Ouais. Et donc c'est pas parce que j'ai une pensée que ça veut dire que je suis un influenceur. Et donc je crois que le désir de faire ce qui est en vogue va des fois être un faux raisonnement qui va nous empêcher de rester dans notre couloir parce qu'on a l'impression que notre couloir, il est minuscule, il est nul, c'est un vestibule et l'autre il a une autoroute. Exactement. Et c'est dommage en fait et on n'est pas une bénédiction à ce moment-là parce que ce qu'on va faire ne va pas porter du fruit, on va être frustré et ce sera pas une bénédiction. Et un autre élément, un autre faux raisonnement qui nous empêche d'entrer dans notre couloir, c'est parce qu'on minimise notre couloir, en fait. On méprise ce que Dieu nous a donné. On méprise le couloir que Dieu nous a donné. Tu as parlé tout à l'heure des parents. Et si je méprise déjà mon rôle, ça va être difficile pour moi de le trouver comme une bénédiction. Ça va être difficile pour moi de le faire de la bonne manière. Et ça, c'est vraiment un encouragement que je veux donner aux gens. Des fois, on est là, on regarde les autres, alors que Dieu nous appelle à faire des belles choses. Et quand on pense que ce qu'on fait n'est pas important, parce que c'est pas visible, etc., c'est dommage. La semaine passée, on parlait ensemble d'un ministère qu'on avait reçu, des personnes qui sont âgées aujourd'hui, mais qui servent le Seigneur avec vraiment beaucoup de zèle, avec beaucoup de joie. On en parlait après. Evelyne, toi et moi, on se disait, waouh, ça, c'est des gens qui ont découvert leur couloir. Ils n'ont pas 100 millions d'abonnés. Ils ne sont peut-être même pas connus, mais au ciel, ils sont connus, en fait. Parce qu'ils ont choisi de rester dans leur couloir, dans l'appel que Dieu leur a donné à faire. Et ils ont excellé là-dedans.
Ouais.
Et parce que c'est leur couloir, c'est naturel à eux. Pour nous, on va trouver ça. Oh, c'est trop difficile, mais pour eux, c'est leur naturel, parce que c'est ça auquel Dieu leur a appelé. Et au ciel, le ciel est content. Vraiment, je veux encourager quelqu'un, reste dans ton couloir. Peut-être que tu n'es pas visible. Peut-être que les gens autour de toi ne le valorisent pas, ne le reconnaissent pas. Mais toi, valorise-le. Et sache que Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a dit que tu es des mains et des yeux, peu importe, l'organe corps que Dieu t'a donné, Dieu le connaît, Dieu le voit, Dieu le valorise. Et au ciel, ça compte ce que tu es en train de faire si Dieu le fait de la bonne manière. Il y a une bénédiction pour toi, mais pour les gens autour de toi, lorsque tu décides de rester dans ton couloir.
Amen.
C'est tellement vrai et j'aime beaucoup ce que tu dis, Dandy. Il y a une chose aussi, quand tu parles de l'importance. Vas-y, mais non, mais je n'ai pas un grand ministère. Mais vous remarquez dans le corps humain, déjà, si on passe sur le verset, le corps humain, il y a le petit orteil.
Oui.
Essayez de vous cogner le petit orteil contre un mur. Vous allez voir qu'il va vous faire tellement mal qu'il peut vous paralyser. Pour vous dire que ça peut être un tout petit orteil, mais il a une importance capitale dans l'ensemble du corps. Donc votre taille ne détermine pas l'importance que vous avez, en fait. Regardez à ce que vous devez faire, et c'est une importance vraiment importante. Et aussi le couloir, ce que j'aime dans l'histoire du couloir, c'est que c'est pas une course non plus. La course, elle est avec moi-même et contre personne d'autre. Alors faites votre course, soyez dans votre couloir, Et Dieu se glorifiera au travers de vos vies.
Vraiment, vraiment. Et il y a une joie, en fait, qui découle de tout ça. Et vraiment, quand on parle de la bénédiction, de découvrir son couloir, une bénédiction pour nous, une bénédiction pour ceux qui vont être au bénéfice de ce qu'on va faire, de ce qu'on va porter comme fruit. Mais il y a une vraie joie de savoir, je suis en train de réjouir le cœur de Dieu. Ce que je fais compte pour le royaume de Dieu. Peu importe ce que c'est finalement, de savoir que Dieu est content et est satisfait de ce que je fais.
Exactement.
Franchement, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Et on va continuer parce que je crois que vraiment, comme je le disais en début d'émission, c'est un thème très, très important. Et le rôle du père peut être tellement minimisé dans certaines familles, dans certaines cultures même. Et aujourd'hui, on va prendre le temps avec toi, Pasteur Freddy, de revoir justement le rôle du père dans la pensée de Dieu, dans la rubrique « Famille ».
Alors, on va parler d'une chose extrêmement importante, le couloir du Père, le rôle du Père dans la pensée de Dieu. Avez-vous fait ce constat? Moi, ça m'a toujours interpellé, la fin de l'Ancien Testament, pardon. Je termine sur une prophétie un peu étrange de Malachie 4. Allons dans Malachie 4, verset 5. Il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors je me suis toujours dit, mais pourquoi finir sur une histoire de père qui va revenir vers les enfants et l'inverse? Et il indique aussi que des pays sont frappés, des régions sont frappées, des communautés sont frappées parce qu'en fait, les pères et les enfants ne sont pas revenus l'un vers l'autre. En fait, vous pensez vraiment, ça nous indique à quel point, dans la pensée de Dieu, le rôle du père est fondamental. Le rôle du père, sa place vis-à-vis de ses enfants est important. Et donc, nous voulons parler un peu de ça. D'abord, qu'est-ce qu'un père dans la pensée de Dieu? D'abord, le Père, par exemple, c'est Dieu lui-même. On est tous d'accord. Mmh. Jésus nous a appris à prier notre Père qui est dans les cieux. Donc, nous a ramené à voir le Père comme Dieu, le Père comme étant le Père par excellence. Donc, ça va être notre modèle de base. Alors, si on part sur ça, qu'est-ce qu'un Père selon la pensée de Dieu? D'abord, un Père n'est pas un géniteur. Avoir un enfant ne fait pas de vous un Père, mais fait de vous quelqu'un qui a pu engendrer une autre personne, juste un géniteur, et pas plus que cela. Mmh. Mais si on va un peu plus loin, dans l'Ancien Testament, le mot père vient du mot hébreu Abba, ou Ab, et qui veut dire en fait source. Mmh. Le père, c'est une source. Le père, c'est un pourvoyeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui amène, qui ajoute dans la vie de d'autres personnes des choses importantes. Le père, c'est également celui qui soutient. Il porte la famille, il porte son épouse, sa femme, il porte les enfants. C'est celui qui soutient et qui soutient également les projets de la famille. Le père, c'est une fondation. Mmh. En fait, le père, c'est comme un roc. On a coutume de dire que sans père, il n'y a plus de repères. Mmh. Ou comme que les pères donnent des repères. En fait, le père, c'est une fondation, c'est un point de départ de la vie de chacun, où mon père, c'est un point de départ depuis lequel je vais avancer, me projeter, avancer. Il est, son rôle, il est essentiel. Et le père aussi, c'est un protecteur. Mmh. Pas uniquement physique, mais surtout émotionnel. Il a protégé les émotions, un protecteur spirituel, un protecteur matériel. C'est un protecteur à tous égards. En fait, tout ce qu'il a engendré, il va le protéger, il va pouvoir, il va veiller à ce que ce qu'il a engendré puisse évoluer, grandir en harmonie, en paix et dans toutes les directions. Mmh. Donc, comprenons qu'il a un rôle essentiel. Et pour faire ce rôle-là, il a des fonctions à occuper. Là, on parle du couloir. Mmh. Père, mmh. Et vous aussi qui êtes mère, vous qui êtes fille, vous devez aider les pères à entrer et à occuper leur couloir. Et j'ai beaucoup aimé ce que tout à l'heure on a dit, Evelyne, Dieu se réjouit quand on fait son rôle à la perfection. Mmh. Et ma prière, c'est que vous le fassiez à la perfection. Alors parlons un peu de quelle est la fonction, quelles sont les fonctions du père. D'abord, on va prendre une première fonction, celle de protéger et de communiquer avec les enfants. Papa, il faut parler à vos enfants. Communiquer. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce verset de Éphésiens 6, verset 4 qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas » du grec qui veut dire « courroux paroquizo hein, ». On passe vite là-dessus. Hein, pas le but, on passe vite. Paroquizo, allez, on passe vite là-dessus. C'est courroucer, c'est irriter, mm-hmm. c'est provoquer, c'est pousser à la colère. Mm. Mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. En fait, les enfants ont le risque de tomber vite dans la religion, dans la rébellion, pardon, dans le rejet, dans tout un ensemble d'excès. Et vous, père, votre communication, notre communication est là pour les ramener à la raison, pour les ramener à l'essentiel, pour donner des bonnes valeurs, en fait. Et ça se fait par là. Communication, ça se fait par l'échange. Parce que vous savez, il y a surtout au niveau de l'adolescence cette tendance à partir dans tous les sens. Et votre communication est là pour les ramener sur les bons sentiers, le sentier de la rationalité, du bon sens en réalité. Mmh. Ensuite, vous devez aussi apporter l'enseignement par l'instruction et la correction. Il y a plusieurs versets qui disent enfant, écoutez l'instruction du père et l'enseignement de la mère. Le père et la mère transmettent des informations, enseignent, mais différemment. Le père, c'est par l'instruction, ça veut dire qu'il va enseigner par l'exemple. Il doit être présent et donner l'exemple. La mère va enseigner plus par la parole, par l'enseignement, par la parole. C'est pour ça que, entre guillemets, les femmes parlent plus que les hommes. Je ferme la parenthèse et on avance. Mais l'idée, c'est qu'un homme doit être présent et ses enfants doivent pouvoir voir chez lui, Mais comment, en fait, comment je prie, comment je travaille, comment je prends soin des gens qui sont autour de moi, comment je prends soin de mes affaires. Si votre fils ne vous voit pas, votre fille ne va jamais lire, mais il ne saura pas que lire, c'est important. Alors, père, vous devez instruire l'enfant par la lecture, par exemple. La lecture des choses, par l'information, par l'étude. Vous devez instruire par l'exemple. Et aussi, vous devez corriger et pas punir. Nadine, Evelyne, il y a une grande différence qu'on doit faire entre punition et correction. Mm-hmm. Punir, c'est sanctionner. Corriger, c'est ajouter de la valeur. Quand je corrige quelqu'un, je lui dis, ça, c'est pas bien, mais surtout, je te montre quel est le bon chemin. Je te montre comment il faut faire les choses. Et nous devons, en tant que père, ne pas être dans la punition, mais être dans la dans la correction. Ça veut dire, je ne te punis pas pour te punir, ça n'a aucun sens, mais je vais ajouter à ta vie, ajouter des valeurs, des choses supplémentaires. Ensuite, le père doit enseigner la parole de Dieu. Genèse 18, verset 19, nous dit, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Vous voyez ce que Dieu dit ? Tu dois donner l'enseignement de la parole à tes enfants afin que ceux-ci puissent perpétuer la parole, la mettre en pratique et surtout la transmettre à leur tour, autour d'eux, à leurs enfants et ainsi de suite. Vous avez un rôle fondamental. Le père, souvent, malheureusement, laisse ce couloir-là à la mère, laisse enseigne l'enfant, lis la parole. Non, père, vous devez être celui qui, régulièrement, dans le culte de famille, bien sûr, les rôles sont partagés, mais vous devez apporter la parole, la transmettre, exhorter à votre tour. Si vous avez la grâce d'être avec votre épouse, que chacun à son tour le fasse, mais vous devez prendre votre tour de transmission de la parole de Dieu.
Amen.
Ensuite, le père, il doit bénir. Alors ça, j'insiste sur la bénédiction. Oh, s'il vous plaît. Permettez-moi d'insister là-dessus, la bénédiction. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 7, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Il y a une puissance dans la bénédiction du père. Avez-vous remarqué que Isaac et Jacob ne sont battus pas pour les biens de leur père, pour ça bénédiction. Ils se sont battus pour avoir la parole qui va les bénir. La parole de bénédiction, c'est ça qui vous lance dans la vie. La bénédiction s'attache à vous et elle marche avec vous. Père, bénissez vos enfants. Amen. Apprenez à leur dire, tu vas réussir. Ce matin, souvent, je m'excuse à mes enfants. Ce matin, tu vas réussir. Tu vas tout comprendre. Tu vas tout saisir.
Amen.
Tu vas tout réussir par la grâce de Dieu. Dieu est avec toi. Tu es béni au départ et tu seras béni au retour. Vous devez apprendre à bénir vos enfants. J'ai un témoignage d'une jeune fille qu'on a reçue à l'église il y a quelques années qui avait été maudite par son père. Et ce que son père a dit, elle a vécu toutes ces malédictions jusqu'à ce qu'elle arrive et c'était vraiment terrible. Tout ce qu'elle a vécu venait de la parole, malédiction de son père. Dieu a fait grâce. Quand elle est arrivée à l'église, on a prié pour elle, on l'a bénie de l'élection de l'Éternel, qui ne sentit aucun chagrin.
Amen.
Et on a vu sa vie changer.
Amen.
Votre parole est d'une puissance. Vous n'avez pas aidé, père.
Amen.
Vous devez bénir vos enfants. Je vais aller un peu plus vite parce que j'aimerais qu'on puisse juste avoir une petite prière avec vous à la fin. Je vous dirais aussi que vous devez diriger vos maisons. Il y a beaucoup de cultures, sans vouloir les stigmatiser, où les pères sont absents, ne sont pas présents et on laisse tout à la femme. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, c'est le père qui dirige la maison. Le père, c'est la tête, la mère, c'est le cœur de la maison. Mais il faut qu'il y ait une tête qui dirige. Il faut un cœur pour envoyer la vie dans la maison, mais il faut une tête qui dirige la maison. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Dirigez vos maisons, donnez des ordres à la maison. Quand je dis des ordres, vous n'êtes pas des commandos. Quand je dis des ordres, c'est des instructions. Voilà. À la maison, donnez des directions à la maison, donnez des orientations à la maison. Soyez présents, dirigez vos foyers. La grâce de Dieu est avec vous. Vous avez été conçu pour cela. C'est votre couloir, votre fonction. Vous avez été conçu pour cela. Et ensuite, père, vous devez obéir à la parole de Dieu afin que vos enfants soient toujours au souvenir devant le Seigneur, Osée 4, verset 6. On connaît bien ce verset. Bon, on peut le préparer parce qu'il manque la connaissance, mais on oublie la suite du verset. Dans la suite du verset, il est écrit que « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de ton sacerdoce et j'oublierai tes enfants parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. » Waouh ! Hors de question. No way, sinon n'oublie pas mes enfants. Mm-hmm. Donc pour ça, obéissez à la parole de Dieu. Oui. Soyez un intercesseur pour votre maison. Et je finirai avec ceci. Soyez un sacrificateur. Soyez le pasteur, le berger, le bon berger de la maison. Je vois Dieu se réjouir à notre sujet, à votre sujet. Et j'aimerais bien, si vous le permettez, juste faire une prière avec vous, très rapide avec vous. Et si vous êtes une mère, priez pour le père de vos enfants. Enfants, priez pour votre parent. Et père, priez avec moi. Père, nous voulons juste te dire merci pour ce temps d'échange, de partage. Nous voulons te recommander tous les pères, tous ceux qui sont devenus pères, tous ceux qui aspirent à devenir pères, afin que nous puissions remplir ses rôles et ses fonctions, être dans ce couloir, accomplir ce que tu attends d'eux, ouais. Te glorifier, te révéler toi le père par excellence, et ainsi faire en sorte que tu puisses avoir des pères qui soient des modèles, des pères qui soient des fondations, des repères pour plusieurs, afin que ta parole se répande davantage. Merci au Dieu, et que les territoires où ils sont établis soient bénis. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus le Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Freddy, pour cette très, très belle rubrique, extrêmement importante et qualitative. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et comme toujours, je vous le rappelle, vous pouvez aller écouter en replay ce qui est diffusé sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur emcitv.com pour réécouter, prendre des notes. Des fois, il faut prendre le temps de s'asseoir. Il faut méditer sur ces choses-là. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez écouté, vous dites, oui, ben, moi, j'ai eu un père catastrophique. Comment, moi, je peux être un bon père ? J'ai pas eu de père ou j'ai eu un modèle tellement catastrophique, je fais que reproduire. L'émission de demain va vous intéresser, on va en parler. Si vous êtes actuellement même victime, entre guillemets, d'un père absent, d'un père qui ne prend pas soin de vous, encore une fois, l'émission de demain va en parler puisqu'on va faire en fait une mini-série un peu hein, sur les pères et le rôle du père, mais l'absence du père aussi, les conséquences que ça peut avoir. Et on est conscient que c'est pas évident pour tout le monde et on est conscient, cher père, que vous avez vous-même vos propres lacunes, vous avez vous-même votre propre bagage, et c'est vraiment une rubrique sans jugement, mais avec beaucoup de compassion, mais simplement vous dire, vous pouvez inverser la tendance, vous pouvez changer les choses, vous avez peut-être eu un mauvais modèle, mais vous pouvez être un bon père. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses peuvent complètement changer. Et ces conseils, avec bien sûr la prière, la grâce de Dieu, un renouvellement de l'intelligence, une mentalité transformée, peut vraiment faire la différence. Et pour terminer, une petite pensée pour les mères aussi. Nous, en tant que femmes, des fois, on ne laisse pas nos maris prendre leur place aussi. On peut être des fois trop dominatrice, trop présente à vouloir tout gérer, tout porter, peut-être parce que, bah, justement, les pères étaient absents, donc on a tout pris. Mais si le père fait un changement, la mère doit faire un changement et lâcher des choses de son côté aussi. C'est vraiment un travail en équipe et j'aimerais encourager les couples qui nous suivent à vous prendre la main, à prier ensemble, à prendre vraiment des décisions pour qu'il y ait un changement dans le foyer. Merci beaucoup à tous les deux très très belles émissions, et comme je le disais, demain on continue un peu sur ce thème, grandir sans figure paternelle, défis et solutions. Et Freddy, tu vas faire une rubrique conseil du coach, comment guérir quand nous avons grandi sans père. Donc on se donne rendez-vous demain dans Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.